marche du monde.
Les Arméniens ont été tués comme des moutons. Nous avons été persécutés de diverses manières. On nous a éliminés avec toutes sortes d'armes. Les Turcs nous traitaient de traîtres, d'infidèles. Qu'avions-nous fait? Quelle faute avions-nous commise?
Arutyun Mikhaelian était un tout petit garçon en 1915. À l'âge de 6 ans, il a survécu au massacre de sa famille arménienne, massacre dont il a été le témoin. Toute sa vie, Arutyun Mikhaelian s'est demandé pourquoi plus d'un million d'Arméniens ont été assassinés dans l'Empire ottoman. Une question taboue dans un empire devenu la Turquie, où l'extermination des Arméniens n'est pas reconnue comme génocide. Que s'est-il passé en 1915? Pourquoi et comment les massacres ont-ils été perpétrés? Des historiens du monde entier apporteront leurs réponses au cours du colloque international intitulé « Le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman dans la Grande Guerre ». Ce sera du 25 au 28 mars à Paris. Et c'est tout de suite dans la marche du monde, puisque je reçois en avant-première Annette Becker, Raymond Kevorkian, Claire Mouradian et Ahmet Insel.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Bonjour à tous et merci de venir partager le fruit de vos recherches historiques sur RFI. Je vous propose tout de suite, Raymond Kevorkian, de préciser à nos auditeurs le contexte dans lequel la décision d'exterminer les Arméniens va naître, à savoir le projet d'État-nation des Jeunes Turcs. Jeunes Turcs étant le nom du parti nationaliste et réformateur ottoman. Alors quel est le projet des Jeunes Turcs depuis leur prise de pouvoir en 1908 ?
Bon, il faut se garder de donner trop de profondeur au projet d'extermination des Arméniens. C'est manifestement un processus de radicalisation qui a dû prendre sa forme extrême au tout début de la guerre ou pendant les premiers mois de la guerre. Dans les années qui précèdent, donc il faut rappeler quand même que les Jeunes Turcs sont au pouvoir entre 1908 et 1918 de manière continue, presque continue. Durant cette période, il succède finalement à un empire moribond, à un sultan qui a une réputation sanguinaire. Et je pense que pour tous les groupes constitutifs de l'empire, on se dit quand ils arrivent au pouvoir en juillet 1908, tout vaut mieux que le sultan. On est dans cet ordre d'idées. Ils ont également une réputation de progressistes. En tout cas, ils sont perçus comme tels dans les chancelleries en Europe et même dans la classe intellectuelle.
Raymond Kevorkian, il suscite l'espoir, y compris pour le peuple arménien.
Mais bien entendu, il y a aucune distinction. Peut-être même que le groupe arménien est celui qui a le plus d'enthousiasme lorsqu'ils arrivent au pouvoir. D'autant que les élites arméniennes et les élites jeunes turques sont très proches l'une de l'autre et ont même des similitudes culturelles, voire idéologiques.
Alors dans ces années qui précèdent la guerre de 14, que sait-on de Mustafa Kemal, celui qui deviendra donc le premier président de la République turque en 1923 ?
On sait pas mal de choses. On sait qu'il a participé à la campagne militaire en Libye contre les Italiens. Mais je dirais que c'est un personnage presque accessoire jusqu'au printemps 1919. Si on exclut son rôle au moment de la bataille des Dardanelles. Et encore, on lui attribue une victoire qui est plutôt celle de Lyman von Sanders, je pense. Donc, en fait, Kemal est largement barré par un personnage plus emblématique du régime jeune turc, c'est Enver Pacha, clairement.
Annette Becker, comment les Arméniens sont-ils perçus, au fond, dans ce contexte hein, qui est celui de la Grande Guerre qui va exploser en 1914?
Les Arméniens sont connus déjà pour avoir été persécuté. Et dès le 19e siècle, une série de grandes figures en Angleterre, en France, avaient pris fait des causes pour les Arméniens. Donc on savait qu'ils étaient persécutés. On savait qu'ils avaient été massacrés, et encore au début du siècle, à Adana. Et au moment où on rentre en guerre, on est à peu près persuadé dans les deux camps que l'Empire ottoman va être dans son camp. Et donc, il y a une grande désillusion de la part des Français et des Britanniques quand les Turcs rentrent dans le camp allemand. Donc, cela pour montrer qu'on n'est pas du tout sûr de l'alliance ou du fait que l'Empire ottoman sera l'ennemi dans les deux camps. Mais très rapidement, ce qui va se passer, à partir du moment où les Turcs rentrent en guerre, en novembre 14, donc ils prennent leur temps par rapport à l'entrée en guerre d'août, ils vont avoir le complexe de l'encerclement, qui est le complexe, je dirais, habituel de l'Allemagne, leur allié. Et eux, ils se sentent encerclés entre les Russes, le grand ennemi héréditaire, et les Français et les Britanniques. Et tout cela va se renforcer par le débarquement, bien sûr, des Dardanelles, de Gallipoli dans les Dardanelles.
Annette Becker, vous avez précisé que des massacres d'Arméniens avaient déjà eu lieu. Est-ce que cela signifie que l'on considère, avant même 1915, qu'il existe un problème arménien, une question arménienne?
Oui, absolument. Il est très clair qu'on sent qu'il y a un problème face aux Arméniens, je dirais face aux chrétiens de l'Empire ottoman en général. Mais on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, ça c'est impossible. Et les massacres très importants de la fin du 19e siècle ne permettent pas de penser qu'il va se passer quelque chose de différent pour lequel on n'a pas encore de nom, d'ailleurs, à ce moment-là.
La date du déclenchement du génocide, c'est le 24 avril 1915, mais comme l'a montré Taner Akşam, la décision pourrait être antérieure au regard des archives.
Birincisi, ben bir tarihçi olarak...
La première chose, en tant qu'historien, je ne travaille pas pour prouver quelque chose.
Benim vazifem, tarihin bir döneminde,
mon devoir premier est de connaître ce qui s'est passé à un moment donné de l'histoire et pourquoi cela s'est passé ainsi.
Osmanlı kaynakları da dahil,
les archives ottomanes comprises, parce qu'il y a eu l'analyse d'autres archives, prouvent que c'était un acte délibéré du gouvernement jeune turc d'éradiquer la population arménienne. Généralement, il y a deux types de preuves qui peuvent démontrer cela. Les premières preuves sont les minutes des procès qui ont eu lieu à Istanbul. Les témoignages durant ces procès, ainsi que les télégrammes afférents à ces procès. Et ces documents que nous avons trouvés portent le sceau du ministère qui les concerne, donc ce sont des originaux.
Bugün Başbakanlık arşivinde
et le deuxième type de documents, ce sont des documents qui sont archivés au ministère de l'Intérieur et qui existent toujours actuellement au ministère de l'Intérieur en Turquie.
Gerek archivdeki belgelerden,
que ce soit d'après les documents que nous avons trouvés dans les archives, d'après les minutes des procès ou d'après les témoignages, nous pensons que ces documents datent des réunions qui ont eu lieu en mars 1915.
Taner Akşam est un historien turc, il travaille aux États-Unis. Son livre, Un acte honteux, traduit en France en 2008, a montré que le massacre des Arméniens n'est pas seulement une conséquence fâcheuse et involontaire de la Première Guerre mondiale, mais que le génocide a été soigneusement planifié et exécuté par le parti au pouvoir à l'époque, le Comité Union et Progrès, plus connu sous le nom de Jeune Turc. Alors je me tourne vers vous, Claire Mouradian, puisque vous avez travaillé sur les archives des ministères des Affaires étrangères de ces années 15 et 16, notamment sur les télégrammes. Les télégrammes, à l'époque, c'est très nouveau. Et Talat Pacha, le ministre de l'Intérieur en 1914, maîtrise très très bien cette nouvelle technique. Alors pour nos jeunes auditeurs, on va dire que le télégramme, c'est quoi? C'est le mail d'aujourd'hui?
Tout à fait.
Hein, comment s'en sert-il Talat Pacha, lui qui était un grand ordonnateur du génocide?
Comme son prédécesseur Abdul Hamid, qui a été lui aussi un grand amateur du télégraphe, qu'il en avait un dans son propre palais, Talat Pacha, qui a commencé sa carrière comme télégraphiste, a en plus du télégraphe officiel, son propre appareil dans son appartement, dont il se sert comme outil pour ordonner les choses, pour les éventuellement transmettre les ordres de façon secrète, cryptée, parfois même à l'insu de certains de ses collègues du gouvernement, pour transmettre à la fois des vrais et des faux télégrammes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des dépêches ostensibles qu'on peut montrer, et puis par derrière d'autres dépêches, disons, qui donnent le véritable ordre pour contrôler l'exécution des ordres. Donc le télégraphe, qu'on a souvent considéré uniquement comme un instrument de progrès, bien sûr, de communication, un outil pour le commerce, pour le développement de toute une série d'actions très profitables à la société, a été de fait dès l'origine aussi un outil de guerre, un outil de répression, un outil de gouvernance, donc avec des usages variés suivant le gouvernement. Et il est au centre de l'exécution du génocide.
Alors si je vous ai bien entendu, il y a des télégrammes officiels. Il y a des télégrammes officieux, il y a des télégrammes qui peuvent se lire et d'autres qui seraient codés.
Tout à fait.
Est-ce que cela veut dire qu'ils ont des fonctions différentes aussi?
Bien sûr, parce que la négation et le camouflage du crime... fait partie du crime, dès le début. Les argumentaires pour nier que c'est un acte organisé, planifié, mais que c'est en fait une réaction légitime à une soi-disant révolte arménienne, enfin tout cet argumentaire est déjà en place au moment même où le génocide, le processus génocidaire, comme l'a évoqué Raymond Kevorkian, se déroule. Et le télégramme est un outil idéal de ce point de vue, parce qu'on peut effectivement envoyer des télégrammes cryptés, et donc on peut envoyer des faux ordres, enfin, soi-disant des ordres pour dire traitez-les bien ou vous les déportez, mais comme ci, comme ça, et puis par derrière des ordres plus durs, et donc toute cette machinerie sera d'ailleurs dévoilée au moment des Taner Akşam l'a évoqué tout à l'heure, au moment des procès de Constantinople après la guerre, puisque l'un des éléments de preuve sera apporté par ces télégrammes de diverses natures, les officieux et les officiels.
Ahmet İnsel, merci de nous avoir rejoints. Vous arrivez tout juste de Turquie, où vous enseignez à l'université de Galatasaray. Alors vous qui vous interrogez sur la construction du tabou arménien en Turquie, j'imagine que la fabrication par les jeunes Turcs eux-mêmes de la négation des massacres des Arméniens vous intéresse beaucoup.
Oui, évidemment. Mais il faut reconnaître que le tabou viendra plus tard. D'abord, il y a des ordres donnés par Talat Pacha, il les suit. Quand on suit les télégrammes publiés par Taner Akçam, il suit en détail les groupes, les ordres en déportation. Il dit de Kayseri, il y a 1000 qui sont partis à Adana, où ils sont, sont-ils arrivés, etc. Donc du coup, il y a une obsession plus particulière de Talat Pacha, beaucoup plus que les autres. Et puis, il y a toute l'équipe de ce qu'on appelle l'organisation secrète, l'organisation spéciale, qui sont sur place, qui contrôlent ces évolutions. Le tabou, viendra plus tard. Rappelons d'abord qu'en fin mai 1915, les Alliés lancent un ultimatum à l'Empire ottoman. Ils disent c'est la période où la déportation commence massivement à partir de première semaine du mois de mai. Et je crois que c'est le 28 mai, il y a un ultimatum. 24 mai, il y a un ultimatum des forces alliées contre l'Empire ottoman. Et ils disent qu'à la fin de la guerre, ils demanderont des comptes sur ces massacres qu'ils qualifient pour la première fois, à ma connaissance, en termes juridiques, de crimes contre l'humanité Le mot crime contre l'humanité est prononcé, donc il n'y a pas de tabou. Hein, c'est... Et si en 1918, à l'arrêt de la guerre, les chefs Union et Progrès fuient Istanbul vers l'Allemagne, certaines vers les Caucases, d'autres, c'est pour éviter les procès, justement, pour éviter d'être accusé et d'être puni pour le massacre des Arméniens. Le terme génocide n'existe pas, mais le terme massacre est utilisé. Il y a les procès qui commencent, mais qui n'aboutissent pas correctement, mais en contumance, ils sont condamnés à mort certains chefs. Trois personnes sont pendues, des petits exécutants locaux. Le tabou vient à partir du traité de Sèvres. À partir du traité de Sèvres, il y a un raidissement du côté des officiels turcs, puisque en 1918-1919, quand on regarde la presse d'Istanbul, bien sûr, tout le monde charge la responsabilité sur ceux qui ont fui, évidemment. Tous ceux qui sont restés sont propres, ceux qui sont partis. Mais néanmoins, on accuse énormément. À partir du traité de Sèvres, il commence à y avoir une réaction nationaliste, puisque le traité de Sèvres est conçu par la population musulmane locale sous couverture de la punition des massacres subis par les Arméniens. On va punir la totalité de la nation, on va dépecer la nation, etc. Et là, à partir de là, Mustafa Kemal et toute l'équipe kémaliste se mettent debout et commencent à lancer une politique de discours très nationaliste.
Annette Becker, donc les Alliés ont vu.
Les Alliés ont vu, bien sûr. Ils ont vu qu'il y avait quelque chose de spécial. Ils parlent de crime contre l'humanité, qui n'est pas une incrimination juridique, mais qui est un terme extrêmement fort, et contre la civilisation. Or, c'est une guerre pour la civilisation. C'est comme ça qu'ils la voient eux-mêmes. Et donc, on est là au cœur de la raison pour laquelle on fait la guerre, la Première Guerre mondiale. Et il y a donc, à l'intérieur de la guerre de la civilisation, un crime contre l'humanité et contre la civilisation. C'est des mots extrêmement forts. Et il y a beaucoup de témoins sur place. Et ces témoins, qu'ils soient américains ou qu'ils soient des ordres religieux, envoient énormément d'informations qui passent dans tous les journaux. Et donc, même le grand public est au courant qu'il y a quelque chose de spécial. Et bien évidemment, on est d'autant plus prêt à entendre ces crimes que le début de la guerre, en 1914, sur tous les fronts, il y a eu des crimes contre les civils. Mais on se rend bien compte, là, que c'est quelque chose de différent. Que ce n'est pas quelques crimes contre les civils le long des armées d'invasion, ce qui est inadmissible mais compréhensible, qu'on a là choisi des civils particuliers. Et ça, on le sait pratiquement tout de suite.
Annette Becker, Ahmet Insel, Claire Mouradian, Raymond Kevorkian sont dans la marche du monde en avant-première du colloque international sur le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman dans la Grande Guerre. Ce sera du 25 au 28 mars à Paris. Nous poursuivons notre réflexion sur la construction du tabou arménien en Turquie, juste après les infos sur RFI.
Du monde.
Nous avons pris la route. Nous avions faim. Nous avions soif. On ramassait l'eau de pluie pour boire. Le voyage a duré plusieurs jours. On est passé de village en village jusqu'au jour où on est arrivé au bord d'un fleuve. Nous l'avons traversé dans des bateaux. Dans les premiers bateaux, les jeunes filles arméniennes, vierges, criaient. Elles hurlaient « Dieu, sauve-nous !» parce que les soldats turcs les prenaient. Pour sauver leur dignité, elles se jetaient à l'eau. Il y aurait tellement de choses à raconter.
Aujourd'hui disparu, Arutyun Mikhaelian avait beaucoup de choses à raconter. Mais sa parole, comme la parole de tous les survivants des massacres des Arméniens, a été peu entendue. Deux Arméniens sur trois sont morts entre 1915 et 1916 sur une population estimée à plus de 2 millions de personnes. Et c'est aussi le patrimoine arménien qui a disparu. Que reste-t-il des 2500 églises, des 450 monastères ou des 2000 écoles? Presque rien. Sans oublier la spoliation à très grande échelle des biens des 270 000 familles rurales ainsi que des 500 familles résidant en ville. Pour quelle raison l'extermination des Arméniens est-elle qualifiée de génocide? Pourquoi l'extermination du peuple arménien a-t-elle été camouflée par ceux qui l'ont perpétrée? Comment s'est construit le tabou arménien en Turquie? Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités, Annette Becker, Ahmet İnsel, Raymond Kevorkian, Claire Mouradian, en avant-première du colloque international intitulé « Le génocide des Arméniens de l'Empire ottoman dans la Grande Guerre ». Ce sera du 25 au 28 mars à Paris.
La marche du monde, Valérie Nivelon.
Et nous retrouvons tous nos invités dans le grand studio de la Marche du Monde, que j'aurais aimé encore plus grand, tant il est important d'entendre la richesse des travaux des chercheurs sur la tragédie qui a frappé les Arméniens en 1915. Une tragédie encore tabou dans votre pays, la Turquie, Ahmet İnsel, une tragédie totalement occultée d'ailleurs hein, pendant des décennies. En aviez-vous jamais entendu parler, vous qui avez grandi dans une famille musulmane et kémaliste? C'était comment à la maison?
C'était une vie parfaitement à l'occidentale, à Istanbul. C'était dans un quartier très cosmopolite, avec beaucoup d'Arméniens qui restaient à Istanbul, et de Grecs et de Juifs. Le quartier, ancien quartier Tatavlaki, significativement en 1927, a été rebaptisé « Libération ». Et d'ailleurs, dans ce quartier, malheureusement, la grande majorité des rues ont été débaptisées. Moi, je suis né dans une rue qui s'appelait Baysungur, du nom d'un chef ouïghour historique, mythique d'Asie centrale. Initialement, il s'appelait la rue Constantine, et ils ont donné même des noms de Talat Pasha, etc., dans ces rues, dans ces quartiers. Et c'était vraiment la libération au sens, ce qu'on entend en Turquie, c'est-à-dire d'épuration en même temps ethno-religieuse. Dans les années 60, dans la rue, avec mes copains arméniens ou grecs, l'échange se faisait, on était très proches, nos familles vivaient comme des voisins, mais la question n'était jamais prononcée, en tout cas devant nous. Probablement, il y avait des discussions dans les familles fermées, mais devant nous, jamais prononcée. La première fois, le mot m'est apparu au sens propre du terme, quand il y a eu l'assassinat du consul général et le vice-consul turc de Los Angeles, début des années 70.
En 73.
Là, le mot était vraiment prononcé. Mais avant, moi j'avais 10 ans, donc probablement, je ne me rappelle pas très bien. En 65, probablement, certaines personnes étaient au courant qu'il y a eu la première revendication de l'État d'Arménie soviétique pour la reconnaissance du génocide. Mais il y avait un blackout total dans la presse. Moi, j'ai rencontré ce thème beaucoup plus tard.
Je me tourne vers vous, Raymond Kevorkian, afin que l'on comprenne pourquoi ceux qui sont au pouvoir en 1915, c'est-à-dire
les trois pachas, Enver Pacha, Talat Pacha, Cemal Pacha, entourent ce projet d'extermination des Arméniens du plus grand secret. De quoi ont-ils peur à l'époque ?
Mais c'est pas une crainte qu'ils ont, mais ils sont conscients qu'ils vont accomplir une monstruosité et donc ils prennent toutes les précautions nécessaires pour le dissimuler le plus possible. On a des informations maintenant sur le processus de prise de décision et sur les antagonismes qu'il y a eu au sein du comité central Jeune Turc, puisque les décisions, c'est là qu'on les prenait. Par exemple, trois des membres du comité étaient favorables à la déportation des Arméniens, des vilayettes, des zones frontières, mais hostiles à une extermination systématique. Mais ce sont les plus radicaux qui ont clairement eu la majorité. Et dans ces radicaux, il y a deux personnages qu'on évoque très rarement, deux médecins militaires, les docteurs Bahedin Shakir et Ahmet Nazım, qui ont joué un rôle central dans la mise en œuvre elle-même, qui sont plus que les bras droits de Talat. C'est eux qui font basculer le comité central vers l'option la plus radicale.
Le secret, ça permet tout de même de prévenir, par exemple, des révoltes.
Bien entendu. Quand on observe la mise en œuvre sur le terrain, on constate qu'il y a une parfaite étanchéité de l'information d'un vilayet à l'autre. Et ça constitue évidemment une clé dans le succès de la mise en œuvre.
Un vilayet, c'est une région administrative.
Absolument, une province. Vous voyez, on a quand même observé un certain nombre de révoltes ou d'autodéfense. Dans tous les cas de figure, ce sont des lieux de transit où l'information est passée et la population arménienne est consciente du sort qui l'attend. Et donc, elle se retranche dans ses quartiers pour se défendre.
Raymond Kevorkian, peut-on rappeler, avant le 24 avril, les premières grandes phases ? Il y a d'abord une sorte de démobilisation, donc des soldats arméniens qui sont déjà engagés dans l'armée. Pour quelle raison ? Pour faire quoi ?
On les démobilise pas, on les désarme. Ce qui est un peu différent. Donc, on a assassiné assez rapidement ou mis de côté les forces vives, les 20-40 ans qui étaient mobilisés. Ça, c'est clairement une décision extrêmement efficace qui va faciliter la mise en œuvre dans les mois à venir. La deuxième étape centrale, c'est évidemment l'arrestation des élites arméniennes au mois d'avril, non seulement dans la capitale, mais également dans les métropoles de province. On enlève la tête. Alors, Taner Akçam, tout à l'heure, évoquait la date de prise de décision. En fait, il y a deux phases. Il y a une prise de décision de déportation à laquelle succède une prise de décision d'extermination. Et il y a à peu près un an d'écart entre les deux, c'est-à-dire le printemps 14 et le printemps 1915. Ce qu'on savait moins jusqu'à ces dernières années, c'est que il y a une différence de traitement pour le reste des hommes adultes qui étaient soit dans les provinces orientales, les six provinces orientales où la population arménienne était très présente, et les colonies arméniennes qui se trouvaient à l'ouest. Les six provinces orientales, c'est-à-dire la priorité du régime jeune turc, leur élimination, là, on y a arrêté et exterminé dans la périphérie immédiate des lieux d'habitation tous les hommes adultes survivants, à l'exception de quelques vieillards. Alors que à l'ouest, c'est par famille qu'on a déporté l'ensemble des populations arméniennes.
Claire Mouradian, nous avons déjà évoqué le fait qu'il y a des témoins, et il y a notamment un grand témoin qui est ce consul américain Leslie Davis, qui tente d'alerter, lui, le président des États-Unis, Woodrow Wilson. Qu'est-ce qu'il voit, ce consul américain ?
Ce consul américain se trouve à Harpers, qui est une ville au centre, donc justement dans ces provinces orientales qu'on évoquait, par où passe une grande partie des caravanes de déportation. Et donc il voit le sort de ces gens qui ont parfois marché déjà depuis des centaines de kilomètres, évidemment sans aide, sans nourriture ou très peu, sans eau, etc. Et il voit arriver des épaves, il voit aussi des exterminations autour, et donc il est vraiment dans un lieu fondamental, enfin stratégique, et il essaie d'envoyer ses informations, mais dans une situation où les télégrammes qu'il peut envoyer sont saisis ou sont lus, donc ne passe pas ou
censuré.
sont censurés, l'immunité diplomatique est quasiment levée, donc une certaine partie des informations sont transmises par des voyageurs américains, donc les Américains sont encore neutres à ce moment-là, par des missionnaires qu'on évoquait tout à l'heure, Suisse, Scandinave, enfin les pays neutres qui peuvent encore résider sur place, et on a même retrouvé, mais très tardivement dans les années 80, une série de photographies qui sont fondamentales, qui ont été envoyées, enroulées, cachées, grâce à un commerçant américain, qui ensuite sont restées dans un grenier pendant des années, qui ont ressurgi un petit peu miraculeusement dans les années 80. Donc c'est un témoin qui est vraiment, on peut le dire, au centre, pas des lieux de déportation ultime, mais du passage des caravanes vers les lieux de déportation qui sont, la destination qui sont les déserts du nord de la Syrie et de l'Irak actuel, donc d'Al-Zawj, Rasulayn, enfin toute une série de lieux où d'ailleurs aujourd'hui il y a une actualité très très forte où se déroulent à nouveau des événements tragiques.
Ce que voit Leslie Davis, le consul américain, c'est ce que vous allez entendre maintenant dans la Marche du Monde, des témoignages rares recueillis en 2005, 90 ans après les faits, par la réalisatrice Laurence Jourdan. Ils s'appellent Artem Oanian et Sarah Manoogian. Ils étaient tous les deux des enfants lors de la déportation des Arméniens vers le néant.
Après Malatia, sur le chemin, on est arrivé à un endroit où il y avait un pont, un tout petit pont en bois. D'un côté, la montagne, de l'autre, le ravin. Les gendarmes étaient des deux côtés du pont. Ils enlevaient les foulards de tout le monde et ils regardaient les têtes des gens. Mon oncle s'était habillé en femme avec un foulard. 500 hommes s'étaient cachés de la sorte. Ils les ont tous emmenés. Le lendemain matin, ma tante m'a dit « Manouk, va faire brouter les ânes ». J'ai vu de loin qu'il y avait un endroit où il y avait de l'herbe haute. Je me suis rapproché et j'ai vu qu'une petite rivière coulait. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Les 500 hommes. Ils avaient été égorgés le long de la rivière. Le sang coulait encore. J'ai pris les ânes et je suis rentré. Meirig, voilà ce que j'ai vu. Peut-être que mon père était dedans.
On s'est arrêté à Diyarbakir. Il y avait plein de monde. Des Turcs, des Kurdes. Ils emmenaient tous les enfants. C'était une véritable boucherie. Les gens étaient couverts de sang, de la tête aux pieds. Ils égorgeaient en haut de la vallée et jetaient les corps en bas. Les gens hurlaient. Ils m'ont arraché des mains de ma mère et m'ont dit « On va t'emmener ». J'ai honte de dire ça. Mais c'était comme si cette foule de gens se rendait au bain public. Tout le monde était nu. Ils tuaient et entassaient les corps par milliers. Sous les cadavres, il y avait des survivants. Je n'ai pas vu comment ils ont emmené ma mère, comment ils l'ont égorgée. Ils avaient déjà tranché la gorge de beaucoup de femmes. Certains d'entre nous ont survécu. Moi, j'ai été égorgée. Mais je ne suis pas morte.
Artem Oanian et Sarah Manoogian ne sont pas morts. Ils ont survécu au massacre de leur famille arménienne. Annette Becker, pourquoi la petite fille qui était Sarah Manoogian a-t-elle vu des corps nus? Pourquoi les Arméniens sont-ils nus avant d'être assassinés?
Il y a deux raisons pour lesquelles ils peuvent être nus dans ce cas-là. L'humiliation, il y a énormément de femmes qui sont violées. Et le vol, il faut bien voir qu'on est dans un pays, dans un empire extrêmement pauvre, et les gens n'ont rien. Et donc, récupérer un vêtement, récupérer une casserole, c'est une richesse. Et donc, il faut bien voir que dans l'extermination des Arméniens, il y a la partie humaine, mais il y a la partie économique, parce que au-delà des vêtements et des casseroles, on va récupérer toutes les terres, on va récupérer tous les biens des Arméniens. Et la Turquie moderne s'est bâtie aussi là-dessus, et le tabou s'est largement bâti là-dessus. On ne doit pas parler de cela.
Alors, si l'on veut parler de ce tabou et donc le faire tomber, et bien prononcer ce terme de génocide, c'est l'occasion de vous demander de revenir sur la création de ce terme par Raphaël Lemkin. Il forge le concept des 43 pour qualifier l'extermination des Juifs. Alors, vous qui avez travaillé sur son autobiographie publiée récemment aux États-Unis, est-ce que Lemkin, lui, a considéré le cas arménien pour construire ce concept de génocide ?
Bien sûr. Il y a pensé extrêmement tôt. On trouve dans ses archives des années 20, pas seulement dans son autobiographie, mais dans ses écrits personnels, dans ce qu'il lisait, on trouve énormément de choses sur les Arméniens. Et en particulier, il s'y intéressait à partir du procès de Talleyrand, qui avait assassiné Talat Pacha à Berlin. Et ce qui intéressait là-dedans Lemkin, c'était bien sûr le sort des Arméniens, mais au-delà de cela, c'était un juriste, l'idée qu'on pouvait condamner un homme pour un crime, mais qu'on ne pouvait pas condamner des responsables d'un énorme crime qui dépassait tous les crimes personnels, qui était un crime collectif. Et il a travaillé dans les années 20, et le début des années 30, a trouvé une formule juridique qui permette de condamner les crimes contre l'humanité.
Définir un crime qui, à ce moment-là, ne porte pas de nom encore.
C'est un crime qui n'a pas de nom. Et en 1933, il est très proche de trouver. Donc on voit très bien que c'est grâce, si l'on peut s'exprimer de façon aussi horrible, à sa réflexion sur ce qui s'est passé contre les Arméniens, qu'on appelle extermination, massacre, annihilation, c'est les différents mots qu'on emploie dans les années 20, qu'il cherche quelque chose. Et en 33, il arrive avec quelque chose qui est très proche, qui est crime de barbarie. Et c'est 33, donc son invention de crime de barbarie, eh bien, tombe avec la montée du nazisme. Et il se retrouve désormais dans les persécutés, puisqu'il est juif, et il arrive à fuir la Pologne et à rejoindre les États-Unis. Et une fois aux États-Unis, il a une idée, c'est une espèce de prophète. Il faut trouver à juger les criminels. Et donc il réfléchit à partir du cas arménien jusqu'en 33. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, il les laisse un peu tomber, les Arméniens. Il s'intéresse surtout aux Juifs, parce que son travail, c'est de mettre en exergue ce qui se passe dans l'Europe occupée. Et puis, dans l'année 1943, peut-être dans l'année 42, mais il ne le publie qu'en 43, il invente ce mot. Et ce mot est un mot incroyable, parce que c'est un linguiste, il parle 15 langues, et il fait un barbarisme, lui qui avait créé le crime de barbarie. Génos, c'est un peuple, et okidere, c'est tuer, mais l'un est un mot grec et l'autre est un mot latin. Un bon linguiste, ça ne fait pas ça. Je suis persuadée, en ayant lu toutes ses archives à New York, je suis persuadée qu'il l'a fait exprès, qu'il a inventé un barbarisme. Mais j'en ai aucune preuve, mais je trouve que ça marche bien. Et à partir de là, il n'a de cesse que son invention devienne la loi de l'humanité tout entière. Et donc, en 44, en 45, il va faire un lobbying extraordinaire pour que le mot génocide soit utilisé au procès de Nuremberg. Il ne réussit pas. Et donc, il se met, au moment où l'ONU est créée, à essayer de faire qu'une convention de l'ONU soit passée, et il va réussir en 48. Et alors, c'est pendant son lobbying, entre 44, et surtout 45 et 48, que là, il utilise énormément les Arméniens. Parce qu'il ne veut pas, lui qui est juif, avoir l'air de dire que la loi de l'humanité, c'est la loi pour les juifs seulement. Et donc, bien évidemment, il revient à ses premières études. Là, pour la première fois, on emploie le mot, il l'emploie, puis d'autres, le mot génocide des Arméniens.
Istanbul. Dinliyorum, gözlerimi kapalı. İstanbul'u
dinliyorum, gözlerimi kapalı. Önce hafiften bir rüzgar esiyor, yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda. Yavaş yavaş sallanıyor yapraklar ağaçlarda.
Cette chanson, Istanbul, pour honorer notre invité turc. Car depuis que Yasmine Chouaki a réalisé votre portrait en sol majeur sur RFI, je sais que ce poème vous tient au cœur, ouais. Ahmettine Sall.
Oui, c'est un poème de Orhan Veli qui date des années 50 et qui est un poème qui raconte tout simplement Istanbul dans toute sa simplicité avec le bruit, puisque Istanbul est une ville de bruit en même temps, mouette, mer, et bruit d'hommes et de cris. Et évidemment, pour le 24 avril, c'est d'Istanbul qui sont partis principalement.
Ahmet Ünsal, cet Istanbul que vous aimez, vous avez grandi avec vos voisins arméniens et oui. Vous avez fini par comprendre ce qui s'était passé justement il y a un siècle, cet Istanbul où ce génocide des Arméniens, on n'en parlait pas à l'école, on n'en parlait pas à la maison, vous nous l'avez expliqué. Mais peu à peu, les langues se sont déliées. À l'extérieur, l'Europe a mis la pression à la Turquie pour qu'elle reconnaisse le génocide des Arméniens. Et puis à l'intérieur, de multiples voix se sont élevées, comme celle de Hrant Dink, le directeur de l'hebdo turco-arménien bilingue Agos, froidement abattu de 3 balles dans la tête alors qu'il quittait son bureau à Istanbul en janvier 2007, où je l'avais interviewé quelques mois plus tôt. Hrant Dink s'adressait alors au gouvernement turc.
Ben Türkiye'de 1915'te Ermeni halkının
Anadolu. Je leur dirai, oui, je sais que en 1915, en Anatoly, le peuple arménien a été coupé de ses racines, a été tué et a été forcé à quitter ses maisons, ses champs, son travail et son pays. Je vais expliquer tout cela.
Hükümetten.
Ce que je veux du gouvernement, c'est en premier temps créer des ponts diplomatiques entre l'Arménistan et la Turquie et ouvrir la frontière qui est fermée depuis longtemps. Il est complètement faux de résoudre les problèmes dans le passé et créer des liens après avec un peuple. Il faut d'abord créer des liens et après essayer de résoudre les problèmes qui sont restés dans le passé. Je ne sais pas si tous les Arméniens pensent comme moi, mais je sais qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Je sais très bien que ces deux peuples, chacun de ces peuples veut que tous ces problèmes soient réglés et qu'ils soient comme avant, comme il y a un siècle.
La voix de Hrant Dink dans la marche du monde, que représente Hrant Dink pour vous, Ahmet Ünsal?
D'abord, c'était... C'est un ami. Hrant a lancé son journal en 1996, son hebdomadaire, et beaucoup d'amis autour de moi ont aidé, ont participé à cette aventure. Moi, j'étais à Paris, je pouvais pas directement participer. Et c'était pas simplement un journal arménien, c'était un journal pour le combat de la démocratisation en Turquie. Et donc, c'était une plateforme très importante. Et je crois que ce journal et Hrant, plus particulièrement avec toute son capacité à créer de l'empathie avec même ses pires ennemis, il avait un don de communication, il a pu créer un climat qui nous a permis, pour la première fois en 2005, aux historiens, aux sociologues, aux journalistes, d'organiser une première conférence sur les Arméniens ottomans à la veille de la Première Guerre mondiale, une conférence dans laquelle le terme génocide a été utilisé par certains, ne pas utilisé par d'autres, mais en tout cas, une libre parole a été prononcée publiquement en 2005, d'abord empêché par des nationalistes ultranationalistes, mais on a pu réussir 3 mois après. Et Hrant était, je crois, une sorte de incubateur principal de cette idée. Deuxièmement, son décès et son décès est un moment extrêmement important, puisque il y a eu, à partir de son décès, une prise de conscience beaucoup plus forte et une organisation de la société civile sur la souffrance arménienne, sur le négationnisme. Et c'est, je pense, nous avons lancé l'appel au pardon aux Arméniens dans la foulée, en mémoire de l'assassinat de Hrant Dink. Et je constate que entre 1996 et le lancement de Dagos et 2015, à peu près donc 19 années, en Turquie, les choses ont pas mal évolué. Bien sûr, le gouvernement ne reconnaît pas le génocide, même le terme massacre, mais dans la société civile, on arrive à débattre désormais. Et la conférence qui va avoir lieu du 25 au 28 mars à Paris, il y aura un équivalent de cette conférence pour d'un jour, le 26 avril à Istanbul.
Merci Ahmet İnsel, merci Claire Mouradian, merci Raymond Kevorkian et merci Annette Becker. Tous vos livres sont à retrouver sur RFI.fr, émission La Marche du Monde. Le tabou du génocide arménien, c'était une édition de La Marche du Monde réalisée par Cécile Pompéani avec les archives de RFI et des extraits du film de Laurence Jourdan disponible en DVD intitulé Le génocide des Arméniens. Je vous signale aussi le dossier spécial du magazine Histoire numéro 408 sur le sujet. Exprimez-vous en toute modération à votre tour sur notre page Facebook, podcastez. Cette émission, c'est la vôtre.